Bonjour Jérôme Leroy.
Bonjour.
Comment est venue cette envie de faire revivre la figure mythique de Nestor Burma, détective créé par Léo Mallet en 1942 ?
Comme c'était une figure presque mythologique de la littérature populaire française, l'idée était qui serait Nestor Burma aujourd'hui et à quel type d'enquête serait-il confronté et entouré de quels personnages. Donc en fait, Nestor est né en 76. Nestor a vécu un peu une jeunesse de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ultra-gauche. Il a vécu dans des squats autogérés, etc. Donc il a toute cette jeunesse. Elle a même flirté avec le banditisme à un moment donné. Et puis il s'est installé on peut estimer vers 2004-2005, comme détective privé. Donc toujours rue des Petits Champs, comme à l'origine. Toujours l'agence Fiat Lux, mais maintenant c'est fiatlux.com, puisque ça sera le Nestor Burma les années 2010-2020. Et même les personnages qui l'entourent, eux aussi, sont des personnages qui sont des personnages d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec une variété qui correspond à la variété sociologique de la France d'aujourd'hui. Par exemple, la secrétaire s'appelait Hélène Châtelain chez le Nestor originel. Chez nous, c'est Cardiatou Châtelain. C'est une métisse franco-sénégalaise, surdiplômée, mais qui n'a pas envie de travailler en entreprise, donc qui fait secrétaire avec le même rapport ambigu avec son patron. Et puis il est aussi aidé par Mansour, qui incarne ce phénomène assez nouveau de la banlieue, enfin par rapport à l'époque de Léo Mallet évidemment, ce phénomène de la banlieue. Et donc Mansour, lui, c'est à la fois un geek surdoué qui est capable de maîtriser parfaitement les nouvelles technologies, parce qu'il a le même âge que Cardiatou, ils ont 27 ans, alors que Nestor en a déjà 43-44. Voilà.
Donc vous avez modernisé Nestor Burma, vous l'avez adapté à la société contemporaine, mais est-ce qu'aujourd'hui être détective privé c'est la même chose que dans les années 40-50 ?
Est-ce que c'est la même chose des détectives privés ? Je ne sais pas, mais ce que je sais c'est qu'il est confronté à d'autres problèmes que le Nestor Burma des années 50, qui correspond à celui du cycle sur les arrondissements de Paris, sur les nouveaux mystères de Paris, et c'est des enquêtes qui sont avec les problèmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple le mien qui se déroule dans le 10e arrondissement, autour du quartier de la gare du Nord, parle beaucoup des migrants, du jardin Villemain, du square Villemain, de cette prostitution des mineurs qu'il y a, de la toxicomanie, et en même temps, là, sur un fond de guerre des polices, de montée de l'extrême droite à travers la police. Donc c'est quelque chose qui me semble être parfaitement contemporain, mais qui n'était forcément pas un sujet des années 50. Donc on a un personnage avec Burma qui est, à mon avis, quelqu'un qui a gardé l'esprit, la niaque, la gouaille de celui des années 50. Mais aujourd'hui, il vit dans un Paris qui n'est plus le Paris des années 50 et il est confronté à des affaires qui ne sont plus celles qu'on pouvait rencontrer dans les années 50.
Alors effectivement, vous avez gardé le principe des différents arrondissements de Paris dans lesquels se déroule à chaque fois une histoire, une intrigue différente écrite par un auteur différent. Vous, en effet, Jérôme Leroy, vous avez choisi le 10e arrondissement autour de la gare du Nord. Pourquoi ce lieu en particulier ? Parce que vous le connaissez ou parce qu'en effet, il vous a semblé que sur place se déroulaient des faits divers qui pouvaient nourrir l'intrigue que vous vouliez développer ?
Il se trouve que pour des raisons professionnelles, je suis un usager de cette gare et puis j'ai pas les yeux dans mes poches, donc effectivement, ça m'a semblé être un endroit. Mais bon, de toute façon, au départ, les gares sont fascinantes, mais la gare du Nord l'est complètement. C'est-à-dire que c'est à la fois la gare où arrivent les touristes ou qui viennent d'Angleterre, de Belgique. C'est une gare qui a ce côté qui fait de Paris une ville-monde, puisqu'on a des trains à grande vitesse venant de partout, enfin, en tout cas, de toute l'Europe du Nord arrive gare du Nord. Et puis en même temps, c'est le terminus des banlieues, c'est sur 3 ou 4 étages, elle a son propre commissariat. Donc c'est une ruche.
Et donc Nestor Burma se retrouve lui aussi impliqué dans une histoire où il y a un réseau de trafic de personnes qui s'appuie beaucoup aussi sur sans doute un trafic de prostitution d'enfants. Et dans une communauté que vous appelez le Petit Kaboul, qui serait une communauté d'Afghans, de réfugiés afghans. Oui. Est-ce que ça existe vraiment ?
Oui, bien sûr, c'est au jardin Villemain, square Villemain, et il y a toujours quelques dizaines, quelques centaines parfois, de migrants qui sont en attente. C'est devenu un rendez-vous presque des Afghans qui arrivent avec rien dans les mains, rien dans les poches, et qui se retrouvent là. Et donc c'est une population dont on peut imaginer aisément qu'elle est vulnérable, qu'elle est racketée, parce qu'il y a femmes, enfants qui vivent comme ça. Donc le Petit Kaboul, c'est le surnom qui a été donné vraiment au square Villemain, ou au jardin Villemain, comme vous voulez. Voilà.
Donc sous couvert de comédie policière, l'écrivain Jérôme Leroy fait aussi un état des lieux de la société, de ses dysfonctionnements à Paris en particulier.
Oui, mais c'est-à-dire en tout cas sur l'arrondissement que je sens un petit peu, effectivement, c'est cette idée que c'est le lieu de qui est vraiment, à mon avis, la gare du Nord et les environs de la gare du Nord à Paris sont vraiment le symptôme des contradictions de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on y trouve, je vous dis encore une fois, une espèce de gens qui sont arrivés au bout du rouleau et au contraire de gens très actifs, hein, ces gens qui s'est mondialisé, qui passent de Londres à Paris pour Bruxelles, pour Amsterdam, et puis vous avez à côté de ça des gens qui finissent près de la gare du Nord parce qu'ils ont pris des trains à Calais en se cachant, ils sont arrivés comme ça, ils arrivent là, et puis voilà, c'est une espèce d'extrême richesse côtoie une extrême misère dans les gens qui passent, et en plus les gens ne font que passer. Donc c'est un territoire qui est fascinant pour ça. Enfin, pour un auteur de roman noir, comme je me définis, c'est-à-dire qui est là, qui veut appuyer là où ça fait mal pour décrire le monde dans lequel nous sommes, je pense que c'est quelque chose toute cette zone-là, c'est fascinant.
Alors, parallèlement, vous publiez également un roman qui s'intitule La Petite Gauloise aux éditions de La Manufacture. On est sur un autre terrain littéraire parce qu'effectivement, là, il ne s'agit plus de retrouver la gouaille de Nestor Burma. Vous revenez, j'ai envie de dire, à votre propre style, mais néanmoins avec des thématiques qui sont assez récurrentes, hein, d'un livre à l'autre, à savoir le terrorisme et comment, dans une ville portuaire de l'ouest de France, qui ressemble beaucoup à Saint-Nazaire, par exemple,
ou
au Havre. Voilà, vous mettez en place sur 24 heures, c'est une action assez dense, une montée de terrorisme, mais avec finalement juste une poignée de personnes.
Voilà, c'est-à-dire que, en fait, ce qui m'intéressait c'était d'arriver à faire très rapidement, dans un vrai récit de suspense. Par exemple, là, c'est typiquement, il faudrait pas spoiler du tout, parce que c'est moi, parfois, je fais du roman noir où on sait que ça va mal se finir, et on sait comment ça va mal se finir, l'intérêt de savoir pourquoi on est arrivé là. Là, on sait pas. Enfin, la fin est une surprise, et j'espère une surprise que même le lecteur entraîné de romans noirs, il ne s'y attendra pas. C'était pour moi le moment j'estimais que c'était le moment de faire un état des lieux sur des questions comme le terrorisme, mais aussi l'antiterrorisme, qui pose à sa manière d'autres problèmes pour notre fonctionnement démocratique. Voilà, est-ce que c'était aussi le moyen de montrer que voilà, il y a toute une jeunesse des quartiers qui est quand même relativement abandonné, et je le montre à travers un établissement scolaire qui est en train de sombrer. D'une certaine manière, tout le monde en prend pour son grade. En plus, la ville est tenue par l'extrême droite, ce qui est possible puisque ça existe en France. La ville est tenue par l'extrême droite avec une police municipale violente, raciste, qui d'ailleurs, ça c'est le début, donc je peux le dire, qui ne se rend même pas compte que voit un arabe tire dessus, manque de peau, c'est un flic de l'antiterrorisme. Donc à partir de là, ça déclenche une émeute, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais c'était tous ces problèmes, le terrorisme, l'antiterrorisme, les quartiers de relégation, comment on a relégué des quartiers entiers de nos villes, les crises industrielles, se rajoutant là-dessus. Bon, j'étais tellement effrayé moi-même par ça des lieux qu'il y a un ton volontairement sarcastique ou proche de l'humour noir dans le livre, mais qui est une réaction de défense, quoi. C'est pour nous renvoyer au lecteur à quel point non seulement ce qu'on vit est franchement inquiétant, mais en plus est profondément absurde. C'est-à-dire que j'arrive à le montrer, c'est pour ça quand vous dites qu'il y a très peu de personnages, c'est précisément parce que je veux montrer en plus un effet, il y a un petit côté marabout de ficelle, c'est parce que tel personnage a fait ça, que tel personnage a fait ça, enfin il y a une construction quand même, sur un texte assez court, je me suis amusé pour faire un peu d'horlogerie, et ce que je veux provoquer comme effet, c'est-à-dire ce qui me ferait plaisir, c'est que mon lecteur rit tout en ayant très peur.
Et tout en désamorçant toute une série de clichés.
Oui, ça me semble extrêmement important. C'est-à-dire que j'ai été moi-même longtemps prof dans ce genre de zone difficile. On n'est pas des saints. Même les profs ne sont pas des saints, même s'ils sont dévoués à ce qu'ils font. Les terroristes sont parfois des pieds nickelés qui sont dangereux, extrêmement dangereux, mais qui sont totalement ridicules. La police, je n'invente rien, mais des problèmes de coordination interservices dans l'antiterrorisme, entre la police, l'antiterrorisme, etc. La façon dont des villes passaient au bloc patriotique. comme je voilà dans mon ont une police municipale composée de types hyper violents, de voilà, etc. Mais en même temps, je pense en même temps n'être pas manichéen, c'est-à-dire que même chez les personnages les pires, je m'amuse à un moment donné à dire qu'il y a un narrateur omniscient qui peut prévoir ce que deviennent les personnages après, et on voit par exemple un des personnages qui pourrait passer pour le pire salopard au début. Dont on s'aperçoit après qu'il a une espèce de rédemption suite à ce qu'il a fait. Alors qu'on pourrait se dire, il est à la limite de la caricature, ben non, il n'est pas la caricature, puisque je dis que ce personnage après devient pratiquement un saint. Voilà.
En tout cas, c'est aussi un livre qui traduit ce qui me semble assez permanent chez vous, c'est une vision assez désenchantée du monde actuel.
Oui, en tout cas, inquiète. Désenchanté, moi je suis toujours enchanté parce que si vous regardez la fin du livre sans la révéler, elle indique quand même que la beauté sauvera le monde d'une certaine manière. Ça débouche sur quelque chose qui est un grand texte, etc. Enfin voilà, ça c'est un texte qui sera bon. Donc il y a quand même, en tout cas c'est très inquiet. Oui, c'est une vision inquiète et donc le rire ou en tout cas l'humour noir est un mécanisme de défense. Mais quand on le lit, on s'aperçoit que le pire n'est pas forcément certain.
La beauté qui passe en effet par la littérature et la poésie, qui est vraiment récurrente dans chacun de vos textes.
Y compris d'ailleurs dans le Nestor Burma, où il y a un personnage de poète, bien sûr. Moi-même, je publie de la poésie, c'est essentiel à ma respiration, même en tant qu'auteur de romans noirs. Et d'une certaine manière, je suis pour... c'est-à-dire que c'est... Oui, je pense que la poésie, ça fait un peu... La poésie sauvera le monde, voilà. Mais les surréalistes le pensaient déjà.
Ça me fait penser que j'ai oublié de vous poser une question, parce qu'on parlait des différentes communautés. Il y a un personnage dans Nestor Burma qui est une jeune femme très étrange, blonde, très belle, tatouée, oui, muette, donc on a du mal à identifier son origine. Et en fait, grâce à ses vêtements ethniques, on se rend compte qu'elle vient du peuple Kalash, qui est un peuple qui vient d'Afghanistan.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est... En fait, j'ai cherché, pour tout vous dire honnêtement, je n'étais pas un spécialiste de la question Kalash. C'est une tribu de plus en plus minoritaire et marginalisée au nord du entre la frontière afghane et la frontière pakistanaise, qui n'est pas musulmane, qui est plutôt panthéiste, qui a quelques cultes païens à l'ancienne. On dit que c'est les descendants de la dernière d'une tribu des soldats d'Alexandre qui sont venus, parce que les filles sont très belles, elles sont blondes aux yeux bleus dans ce coin là et donc il y a quelque chose d'étrange dans leur beauté, leurs vêtements sont superbes. Puis à partir de ça, cette idée d'un peuple comme ça disparu, d'une fille qui ne parle pas, qui soit le mystère, il y a un poète, ancien ami de Nestor du temps des squats, qui tombe raide amoureux d'elle, et on s'apercevra que c'est quand même lié en plus à l'enquête de Nestor dans le 10e.
Est-ce que les Kalash donnent leur nom Kalashnikov ou pas? Rien à voir.
Pas du tout. J'ai cru. Non, les Kalash, en plus, il y a des orthographes différentes, etc. D'accord. Mais les Kalash, donc, c'est une. Voilà, puis c'est le plaisir aussi de la vraie littérature populaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi se faire plaisir et d'un seul coup. Moi, j'avais besoin, tout simplement, de quelqu'un, d'un migrant qui serait difficile à identifier, dont l'origine serait problématique, parce que j'avais besoin d'une histoire d'amour un peu particulière. Enfin, je vais pas non plus dévoiler trop pour le Nestor, une histoire d'amour un peu particulière. Et cette jeune fille Kalash, dont on ne découvre qu'elle est Kalash qu'assez tard, j'avais besoin, donc c'était, j'ai vu que j'ai vu cette histoire de, je m'étais souvenu, parce que j'avais fait mes humanités, comme on dit, de l'épopée d'Alexandre, et savoir qu'il avait été très loin, en Inde, et puis après jusque là-bas. Et donc, il y a toujours cette idée un peu récurrente qu'il y a des groupes de soldats qui sont restés, qui se sont installés, qui ont été oubliés, et ça expliquerait leur type européen. Ça, c'est des choses dont on a toujours parlé, comme ça. Mais je ne connaissais pas précisément les Kalash.
Comme quoi on apprend toujours quelque chose dans un roman noir.
Ah mais moi je pense en plus que le roman, mais plus généralement le roman noir, plus généralement le roman, je serais tenté de vous dire que moi j'ai appris énormément de choses grâce au roman. C'est-à-dire que c'est un mode de connaissance du monde qui me semble à la fois plus profond et plus durable que, je sais pas, des essais publiés aujourd'hui sur telle question précise et qui seront pas des ouvrages universitaires évidemment, mais tout voilà, le roman offre. Moi par exemple, si je veux me renseigner sur l'état de Paris en 1830, je vais pas lire une thèse, je vais lire les grands romanciers du réalisme 19e. Voilà, c'est-à-dire que je vais pas lire une thèse sur le Paris de 1830.
De même qu'on peut lire votre livre aussi comme une cartographie contemporaine de Paris, qui n'existait pas il y a 50 ans, probablement, et qui n'existera plus dans 50 ans.
Oui, c'est pour ça que l'éditrice Nathalie Carpentier à French Pulp dit que ça peut être intéressant d'imaginer que, de toute façon, si on a raison, quelqu'un en 2030 ou en 2040 reprenne, parce que c'est ce qu'on disait au début de notre entretien, reprennent le personnage de Nestor en disant bon, ça peut plus être celui des années 2010-2020, ça va être celui des années 2040, et parce que c'est une figure mythologique, donc de toute façon il peut s'inscrire dans toutes les époques imaginables.
Merci beaucoup Jérôme Leroy. Merci. Je rappelle les titres de ces deux romans, La Petite Gauloise, publié par la Manufacture de Livres, et donc voici les nouvelles enquêtes de Nestor Burma avec votre opus intitulé Terminus Nord et qui est apparu aux éditions French Pulp.